France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une semaine dans le 43, le département de Haute-Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes, est à l'honneur dans le jeu des 1000 euros et dans les carnets de campagne. Au programme des carnets aujourd'hui, des légumes et de la laine. Une initiative dans un collège d'abord et une autre qui valorise le travail des éleveurs tout en tâchant de faire vivre une filière textile en France. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
La MAP est une solution idéale pour manger des produits de qualité à prix raisonnable et pour soutenir des paysans et paysannes en leur garantissant des ventes sur la durée. En s'abonnant à un panier à MAP, on évite les intermédiaires et cela nécessite bien sûr un peu de logistique. Eh bien, à Brive-Charensac, tout près du Puy-en-Velay, ce sont des collégiens et collégiennes qui s'occupent de tout. Une AMAP est gérée par les élèves du collège Anne-Franck. Bonjour Claire Bertrand.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes prof d'anglais dans ce collège de Brive-Charensac et vous êtes présidente de la MAP, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans cette émission il y a 2 ans. Je vous rappelle aujourd'hui, car il y a du nouveau, des paniers solidaires. On va y venir bien sûr. Dites-moi d'abord Claire, ce sont vraiment les élèves qui sont aux commandes de la MAP?
Oui, tout à fait. Alors, c'est déjà eux qui ont créé tout le projet, puisque dans le collège, nous avons des cours d'éducation au développement durable qui sont prévus dans l'emploi du temps des élèves. Et c'est dans le cadre de ces cours d'éducation au développement durable que les élèves eux-mêmes ont créé la MAP, ont contacté les producteurs, ont budgétisé tout ça et ils participent depuis 2022, donc date de création de cette AMAP, à la communication, aux livraisons et puis à la recherche aussi éventuelle de nouveaux producteurs pour enrichir encore le catalogue de l'AMAP.
Et comment ça se passe pour la distribution des paniers? C'est dans la cour de l'école?
Oui, tout à fait. Ça se passe dans la cour du collège. C'est les élèves qui aident à l'installation des tables, à l'accueil des producteurs. Et ensuite, tous les mardis, en fin d'après-midi, les personnes qui ont souscrit à des contrats viennent chercher leurs produits. On insiste sur le fait que c'est vraiment les produits de leur choix. C'est pas un panier type. Ils choisissent vraiment les produits qu'ils souhaitent parmi tout le catalogue de producteurs. Et c'est aussi les élèves qui vont créer la communication sur les réseaux et puis annoncer les événements de l'association et autres. Et oui, c'est le seul projet de l'académie aussi, c'est la seule AMAP en collège dans toute l'académie de Clermont.
Mmh. Et vous n'en êtes pas peu fière?
Non.
La MAP est-elle ouverte aux clients, clientes extérieures au collège?
Tout à fait. On insiste aussi beaucoup là-dessus. C'est aussi créé pour être le plus ouvert possible. D'ailleurs, la majorité des AMAPiens ne sont pas du collège, sont de l'extérieur du collège. Ils viennent, franchissent les portes du collège tous les mardis pour venir chercher les produits qu'ils ont commandés tous les 6 mois.
Et la nouveauté, je le disais, c'est un projet solidaire mis en place il y a 1 an, je crois. En quoi ça consiste ?
Voilà, donc il y a 1 an, on voulait faire avancer cette AMAP. On avait déjà ce projet de solidarité dès la création de l'AMAP, mais on n'avait pas encore eu le temps de le mettre à profit. Et l'année dernière, Madame Landriot, la professeure de français des 3e, a créé pendant toute l'année ce projet sur le thème de la précarité alimentaire. Donc ce sont là encore les élèves qui ont tout fait, le montage du projet, la recherche de financement, le montage du budget. Et ils ont aussi en particulier rencontré des professionnels, donc des producteurs, des associations d'aide alimentaire. Et surtout, une rencontre qui a été vraiment marquante, c'est celle de Bénédicte Bonzi, qui est chercheuse en anthropologie sociale. Et lors d'une petite conférence qu'elle a faite devant les élèves et aussi d'autres personnes extérieures du collège, elle a mis en avant la notion de violence alimentaire dans l'aide alimentaire actuelle. Et donc, les élèves ont décidé de baser leur projet de panier solidaire vraiment sur les observations de Bénédicte Bonzi, qui sont les suivantes. Il faut, pour que l'aide alimentaire ne soit pas une violence, que les personnes bénéficiaires aient le choix des produits, que ce soit des produits de qualité. Dans notre cas, ce sont des produits bio et locaux. Et aussi, elle met beaucoup en avant la nécessité d'une participation financière des bénéficiaires, même modique. Et ensuite aussi, finalement, il ne faut pas stigmatiser les bénéficiaires. Et c'est le cas dans notre AMAP, puisque les bénéficiaires des paniers solidaires sont vraiment des AMAPiens comme les autres et viennent tous les mardis, comme les autres, chercher leur panier à leur nom. Et c'est le Centre d'Action Sociale donc et la Croix-Rouge qui choisissent les bénéficiaires, qui sont des familles qui ont été repérées comme en situation de précarité ou ayant pouvant vraiment bénéficié de cette aide. Et surtout aussi, c'était des personnes qui étaient motivées par le système de l'AMAP, parce que comme je viens de dire, il faut être présent tous les mardis, il faut être participer aussi à la vie de l'association, il faut aussi aider aux livraisons. Donc c'était aussi des personnes, les bénéficiaires étaient aussi des personnes qui étaient motivées par le système de l'AMAP.
Et combien leur coûte alors ce panier pour les familles bénéficiaires?
Alors, pour les familles bénéficiaires, ils versent une cotisation de 10 euros par mois. Eux, ils versent 10 euros par mois et nous, de notre côté, on finance les 450 euros restants par famille qui leur permet du coup de faire leur commande pour les 6 mois pour 450 euros par famille dans tout le catalogue de la MAP, que ce soit des produits laitiers, des légumes, du pain, des œufs, mais aussi des champignons, des produits cosmétiques. Il y a toutes sortes de produits.
Comment sont financés ces paniers finalement?
Alors, c'est justement la grosse partie et le gros travail qu'on a à faire, c'est financer ces budgets, puisque ça représente un budget de 5 000 euros par an. Pour l'instant, elle a en grande partie fonctionné grâce à des dons de particuliers, surtout en particulier les autres AMAPiens qui ont fait une cotisation solidaire en donnant un peu plus pour leur cotisation pour financer ces paniers solidaires. Et puis, nous avons aussi répondu à des appels à projets pour le lancement de cette opération. Mais maintenant, il nous faut financer une nouvelle année et on recherche assidûment d'autres financements, en particulier via le don ou des mécénats de particuliers ou d'entreprises. Donc, je profite de votre émission pour lancer un appel pour nous aider à continuer ce beau projet qui est donc porté par des élèves et qui, pour l'instant, a aidé 7 familles différentes à avoir accès à des produits bio, locaux, de qualité et à être vraiment insérés dans une association comme les autres.
Est-ce que vous avez vu évoluer les habitudes de consommation des élèves et de leurs familles depuis la création de cette AMAP ?
Alors oui, pour vous donner une idée, tout ce projet en fait a commencé avec des photos. On a demandé aux élèves de prendre en photo pendant une semaine tout ce qu'ils ont mangé pendant la semaine et de se rendre compte de vraiment ce qu'ils mangeaient pendant une semaine. Et on s'est rendu compte que c'était beaucoup de produits transformés. Et grâce à la MAP, ils vont plus vers des produits bruts, la cuisine. On a aussi des projets d'atelier cuisine d'ailleurs avec les élèves et avec les AMAPiens. Donc voilà, les projets ne manquent pas.
Ça devrait être banal finalement, une AMAP dans un collège.
Oui, c'est vraiment un outil formidable qui permet d'aborder d'innombrables sujets qui sont vraiment, vraiment importants. Et quand on voit tous les problèmes de sédentarité des élèves et de mal manger justement, la création d'une AMAP en collège est vraiment un atout formidable pour aborder de nombreux sujets.
Merci beaucoup Claire Bertrand et bravo aux élèves s'ils nous écoutent. La MAP du collège Anne Franck, c'est à Brive-Charensac en Haute-Loire. Bonne journée à vous.
Merci Dorothée, au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Un ancien invité nous a envoyé un message. Julien Tufféry, le patron des ateliers Tufféry, fabricant de jeans français à Florac, en Lozère, nous a écrit ceci. Il y a une pépite incroyablement géniale en Haute-Loire, des laveurs de laine. Ce sont des gens géniaux et importants pour l'écosystème textile français. Voilà qui mérite un coup de fil. Bonjour Patrick Laurent.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de Laurent Laine, entreprise basée à Saugues, commune de Haute-Loire, tout proche de la Lozère et du Cantal. L'entreprise a été créée par votre arrière-grand-père. Elle compte aujourd'hui 9 salariés. Elle fabrique des matelas et des couettes, notamment. Et c'est la seule en France à pratiquer cette activité ancestrale, le lavage de laine. Où est la concurrence, dites-moi, en matière de lavage? En Asie?
Alors, la plus grande concurrence, en effet, se trouve en Asie. Après, il y a quelques encore centres de lavage en Europe, entre autres surtout en Belgique, où il reste encore un centre de lavage, et une en Espagne.
Vous êtes installé dans les locaux d'une ancienne filature à Saugues. Pourriez-vous me décrire vos machines, Patrick Laurent?
Alors, nos machines, c'est quand même des machines très anciennes, qui datent à peu près du temps de la Tour Eiffel. On voulait absolument garder ce patrimoine, avec des machines anciennes, mais qui marchent très bien, parce que bien sûr, dans le temps, c'était monté très robuste. Et il a fallu juste un peu les remettre en état. Mais nous avons donc le dernier lavage de laine en France.
Comment expliquez-vous que vous soyez les derniers?
Alors, il y a eu une très grande concurrence. Ça vient des Chinois qui, avant, achetaient la laine en France pour, eux, faire des vêtements. Et après, dans les années 70-80, les Chinois ont monté des grosses structures de lavage chez eux. Et du coup, les grosses structures en France n'avaient plus assez de matières premières à laver. Donc, petit à petit, toutes les industries lainières de lavage ont fermé. Et nous, on a su résister parce qu'on était dans un autre créneau.
Votre créneau, c'est que les gens récupèrent chez vous leur laine qui a été lavée. Hein. C'est très différent. Vous ne mélangez pas les laines des différents producteurs, c'est ça ?
C'est exactement ça. Et on permet aussi surtout de laver des petits lots à partir de 100 kilos. Quelqu'un qui a 100 kilos de laine peut venir chez nous pour faire le lavage. Que dans les gros centres, c'est plusieurs tonnes. Donc nous, on a su vraiment s'adapter à cette demande. Et on est sûr et on certifie aux clients qui récupèrent bien son lot de laine.
Alors, comment procédez-vous pour le lavage avec ces machines qui sont aussi vieilles que la Tour Eiffel ?
Alors, c'est tout simple. C'est en fait, il faut imaginer des bacs qui font 2 mètres de large ou 5 mètres de long. Au-dessus, il y a des fourches en fait, qui font avancer la laine. Donc, à l'intérieur, bien sûr, il y a de l'eau chaude, juste un savon biodégradable et un peu de carbonate de soude. Et en fait, on a 5 bacs qui se succèdent. Et la laine passe de bac en bac, et c'est comme ça que la laine perd son suint à chaque bac, et à la fin, elle ressort, elle est propre. Elle passe dans un séchoir, où c'est de l'air chaud qui est soufflé, pour la sécher.
Vous dites que la laine perd son suint, ce qu'on appelle le suint, c'est la transpiration de l'animal ?
C'est la transpiration, en effet, c'est le gras de la laine. On va dire que sur 100 kilos au début qui rentrent, il perd à peu près la moitié. Donc sur 100 kilos en brut, on récupère 50 kilos en propre.
Vous utilisez uniquement de l'eau, du savon et du bicarbonate, aucun produit chimique ?
Absolument. Bon, on veut vraiment certifier à nos clients qu'il n'y a aucun produit chimique, qu'on lave de façon très naturelle pour ne pas altérer la qualité de la laine. Et on a beaucoup de clients qui travaillent en bio par la suite, donc on ne veut vraiment pas qu'il y ait de produits chimiques dans notre transformation.
Je le disais, vous travaillez notamment pour les ateliers Tufféry en Lozère. Quels sont vos autres clients, Patrick Laurent ?
Alors après, on a d'autres professionnels, par exemple d'autres personnes qui font de la literie en laine. On a quelques filateurs, mais on a beaucoup d'éleveurs qui veulent revaloriser leur laine. Puisque malheureusement, la laine en France, maintenant, les Chinois n'achètent plus, donc il y a des stocks énormes. Donc beaucoup d'éleveurs maintenant veulent aller jusqu'au produit fini et nous font laver la laine et transformer également en produit fini. Alors on fait beaucoup de couettes, d'oreillers, des surmatelas. Voilà un peu les produits phares que nous faisons pour pousser les éleveurs.
On est vraiment sur un marché de niche. Il faut rappeler que l'immense majorité de la laine en France, elle finit à la poubelle, enterrée ou stockée dans des granges. C'est un gaspillage considérable.
Oui, en effet, c'est plusieurs milliers de tonnes qui sont jetées, gaspillées. Donc on a encore quelques-uns à essayer de faire au maximum une revalorisation de cette laine. Mais voilà, on reste toujours artisan quand même, semi-industriel, et nous passons pas des quantités, des milliers de tonnes qu'il y a sur le marché en France, quoi, malheureusement.
Votre entreprise fabrique aussi des matelas et des couettes en laine. C'est un volet important de votre activité ?
Oui, tout ce qui concerne la laiterie, c'est quand même vraiment le plus important dans notre activité. Toujours pareil, comme on veut rester local avec nos éleveurs locaux, dans un rayon de 50 km, on récupère toute la laine. Et on travaille de A à Z, en fait, on s'occupe de tout. Tout est fait vraiment sur place.
Vous avez l'impression d'être un petit acteur qui se bat pour que renaisse quelque chose de plus grand ?
Oui, on est quelques-uns à voir, à faire renaître, à se battre, à surtout garder ce savoir-faire, ces machines. Parce que malheureusement, une fois que le savoir-faire est parti, c'est très dur de retrouver quelqu'un qui puisse remonter des industries. Donc pour nous, c'est vraiment très important de faire ceci. Et de essayer de motiver d'autres personnes à essayer de recréer une filière de laine en France.
Laurent Laine, c'est donc à Saugues, en Haute-Loire. Merci beaucoup, Patrick Laurent.
Je vous en prie, merci à vous.
Et bonne journée, au revoir.
De même, au revoir.